Jean, chapitre 3, verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes?
Désolé.
Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc aujourd'hui, je continue le message sur le problème avec la religion. Dimanche dernier, nous avons rencontré Nicodème, qui est venu voir Jésus de nuit, parce qu'il savait qu'il manquait quelque chose dans sa vie. Même s'il était le chef, s'il était un membre de la Cour suprême, le Sanhédrin, selon ce qui est écrit au verset 1, il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il était pharisien, il était le docteur d'Israël. Selon le verset 10, Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Et Nicodème était vide. Il avait des questions, donc il est venu voir Jésus. Et Jésus lui dit au verset 7, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Comme nous avons vu la semaine dernière, être religieux et suivre tout un tas de règles et de lois ne t'ouvre pas la porte du ciel. Il n'y a que la nouvelle naissance. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et malgré l'étonnement de Jésus que ce chef des docteurs d'Israël n'ait pas compris ce que disait Jésus, Jésus ne l'a pas abandonné. Il a entamé une nouvelle illustration pour appuyer ce qu'il disait. C'est là que nous commençons ce matin, au verset 11 et 12. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et dans ces versets, on a quitté le dialogue entre Jésus et Nicodème et on bascule sur un monologue. Nicodème n'interrompt plus. Et Jésus met le doigt sur la racine du problème. La raison pour laquelle Nicodème ne comprenait pas ce qu'il disait, c'est parce qu'il refusait de croire ce que disait Jésus. Verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage.
Pourquoi elle a changé de je à nous?
Le nous et le nôtre dans ce verset parle de Jésus, Jean-Baptiste et les disciples. Le « vous », parce que c'est « je te le dis » et « vous ne recevez pas », c'est Israël, la nation que Nicodème représentait. Et Jésus continue au verset 12, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, vous vous souvenez au verset 8, il a parlé du vent. » Il a parlé du vent au verset 8, il a parlé de la naissance physique au verset 6, et au verset 12, je vous ai parlé des choses terrestres. Comment croirez-vous je vous parlerai des choses célestes. Ce matin, ma question pour vous, c'est est-ce que vous êtes comme Nicodème? Est-ce que vous refusez de croire à l'enseignement de Jésus? On va voir tout à l'heure ce que veut dire croire. Mais je pose la question parce que je ne peux pas présumer que vous soyez tous nés de nouveau.
J'ai envie de dire, il y a des moments de vie où il y a des moments où on est des Nicodèmes et il y a des moments où on est des petits Jésus, quoi, enfin des petits Christ. Des fois ça part, puis on est des Nicodèmes, puis ça revient,
c'est comme une chanson populaire.
Ouais,
c'est
ça.
C'est quoi, t'as dit ?
C'est comme une chanson populaire. Ça s'en va et ça revient.
C'est un peu ça. Enfin, moi je vois ça comme ça. La balance.
Ouais. Mais le fait d'être à l'église, pour moi, ça ne veut rien dire. Les gens vont à l'église pour tout un tas de raisons. Des fois, c'est pour satisfaire des parents. Des fois, c'est pour satisfaire le conjoint. Des fois, c'est pour échapper aux parents ou échapper aux conjoints. Des fois, c'est pour ne pas rester seul le dimanche matin. Des fois, c'est par habitude.
Ça peut être aussi par envie.
Ça peut être par conviction. Ça peut être pour apaiser votre conscience.
Ça peut être pour rechercher aussi.
Apprendre, rechercher, oui.
Et à l'époque de Jésus, la nation d'Israël, c'était pareil. On voit dans Jean chapitre 5, verset 40, Jésus dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les gens venaient à Jésus, ça, il n'y a pas de problème. Mais il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ils avaient le choix. Ils ne voulaient pas venir. Peut-être que c'est comme ça pour vous ce matin. Vous venez à l'église, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous venez à Jésus pour avoir la vie? Et il peut y avoir des raisons légitimes, entre guillemets, pour ne pas venir à Jésus pour avoir la vie. Ça peut être la peur. Peur d'être pris pour un illuminé. Peur des moqueries des collègues et des amis. Peur de ne pas être promu au travail. Peur de perdre son travail, peur d'être rejeté. Et donc vous traitez Jésus comme une salle de sport. Vous y allez de temps en temps parce que vous savez que ça fait du bien. Mais vous avez peur de vous lancer à fond. Peur de devenir membre à part entière. Et ces gens qui refusent de venir à Jésus, Jésus ne les rejette pas. Il n'est pas comme nous. Nous, on dit, bon, tu veux pas venir, tant pis. Hein. Tant pis pour toi, je passe à autre chose. Mais Jésus, il ne les rejette pas. On n'entend pas les paroles de la chanson de Renaud sortir de la bouche de Jésus. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi, tu pues, marche à l'ombre.
Non.
Hein?
La fameuse allusion à Renaud dont tu faisais.
Je l'avais dit, hein.
Oui, hier soir.
La réaction de Jésus, c'est autre chose. On voit dans Luc, chapitre 19, versets 41 à 44, comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Ce jour qui t'est donné, ce jour qui t'est donné, c'est le jour où le Messie, qui était tant attendu par les Juifs, il est là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rejeté. Verset 43, il viendra sur toi les jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne te laisseront pas. pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Là, il part de l'an 70, quand Jérusalem fut détruit par les Romains. Mais Jésus pleure pour ceux qui ne veulent pas venir à lui, pour avoir la vie. Le mot grec pour la vie, vous savez ce que c'est ?
Comment ?
La vie.
La vie.
La vie. Le mot grec pour la vie.
Zoé.
Et ça parle non seulement du fait de vivre, d'être vivant, mais ça parle d'une qualité de vie. Une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que tout le monde a la vie éternelle. Ne vous inquiétez pas, je ne pars pas dans une doctrine d'universalité du salut, mais tout le monde a la vie éternelle.
Et ça dure longtemps.
Tout dépend du lieu où vous allez passer l'éternité.
Donc il y a de plus en plus de monde alors, parce que depuis 6000 ans, 10000 ans, il y a toujours des nouveaux venus
dans ces mondes spirituels.
Ils sont prêts, ils sont sortis. Non, il n'y a pas de sortie.
Il n'y a pas de sortie.
Enfin, ça dépend. Quand je dis sortie, ça dépend de quel club, tu vois.
C'est définitif.
Oui.
Non, mais il voulait dire qu'il y en a qui peuvent aller chez le diable.
Ah bah oui.
Ouais.
Est-ce que vous passez l'éternité au ciel avec le Seigneur, ou est-ce que vous le passerez en enfer? Où que ce soit, vous avez la vie éternelle. Donc ce mot Zoé parle de la qualité de vie qu'offre Jésus. Et quand nous refusons cette vie, il pleure. Ça lui brise le cœur parce qu'il sait que la destruction arrive. On voit aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Le voleur, c'est Satan. Je ne vous le cache pas. Il veut dérober, égorger et détruire. Ce n'est pas un type sympa. Mais Jésus est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Jésus vient pour donner la vie, Satan vient pour détruire. Et lorsque nous ne voulons pas venir à Jésus pour avoir la vie, il pleure parce qu'il sait que la destruction vient. Et donc Jésus dit à Nicodème au verset 12, Jean 3, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et je peux m'identifier un peu avec Nicodème, et je suis sûr qu'il se disait, mais pour qui prends-tu? Je suis le docteur, je ne suis pas un docteur d'Israël, je suis le docteur d'Israël. Qui es-toi pour m'enseigner les choses célestes? Et donc Jésus continue au verset 13, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Jésus est en train de dire que le seul qui soit bien placé pour parler des choses célestes, c'est celui qui a déjà été au ciel. Il dit, je suis le seul qui peut parler de ces choses parce que j'y étais. Ce verset nous dit que personne n'est monté au ciel, mais non seulement Jésus a déjà été au ciel, c'est de là qu'il vient. C'est chez lui, donc il connaît. Il n'y a que lui qui peut nous enseigner des choses célestes. Et même Nicodème l'avait reconnu. Vous vous souvenez au verset 2, Nicodème a dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et puis Jésus finit le verset 13 avec le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Attendez. Qui c'est le Fils de l'homme? On est d'accord, c'est Jésus. Il est où là quand il parle à Nicodème?
Sur terre, mais dans le ciel.
Jésus lui dit, je suis au ciel. Je te parle ici, bas Nicodème, mais en même temps, je communique avec mon Père céleste au ciel. En anglais, on a une expression d'être tellement tourné vers le ciel qu'on n'est d'aucune utilité terrestre. C'est une expression souvent utilisée pour des chrétiens qui se veulent spirituels. Mais Jésus était tellement tourné vers le ciel qu'il était de toute utilité terrestre. Et le voici en train d'essayer de montrer à cet homme le chemin vers le ciel. Si souvent les chrétiens se retirent du monde, se détachent du monde, refusent de participer aux activités terrestres parce que le monde est déchu, nous devons vivre des vies saintes, n'est-ce pas? Ils délaissent leurs amis non-croyants pour ne s'associer qu'avec d'autres croyants. Ils sont tellement tournés vers le ciel qu'ils sont d'aucune utilité terrestre. Mais Jésus, ce n'est pas le cas. Jésus regarde le monde et il pleure. Il pleure quand il voit le péché dans nos vies, il pleure quand il voit l'état de ce monde, il pleure quand il voit ce que fait le péché à sa création. Et nous devons devenir comme Jésus. Nous devons avoir son cœur. Et le seul moyen d'avoir son cœur, c'est de passer du temps avec lui, dans la prière, dans sa parole, en disant pas et écoutant. Évite les torticolis.
Ou pas.
Ou pas. Ne regardons pas le monde dans son état actuel déchu sans se rappeler que nous étions pareils. Ne soyons pas tellement tournés vers le ciel que nous ne sommes d'aucune utilité terrestre. Jésus était tellement tourné vers le ciel qu'il est de toute utilité terrestre. On peut savoir où nous en sommes avec le Seigneur quand on commence à s'approcher de Jésus, à chercher sa face. Comme il est écrit dans le psaume 27, verset 8, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, l'Éternel. » Quand on lève la tête pour chercher sa face et on prend nos collègues, nos amis d'en haut, on passe à côté de ce que nous demande le Seigneur. Ce n'est pas ça. On passe à côté. Jésus était tellement tourné vers le ciel qu'il était de toute utilité terrestre. Mais quand vos amis ne vivent que pour le week-end, pour 48 heures de débauche, pour s'enivrer et coucher avec tout le monde, si vous pleurez, quand vous pleurez pour eux, quand vous regardez les infos et votre cœur est brisé, c'est là que nous aurons le cas de Jésus. Si vous pouvez regarder les infos sans que votre cœur ne brise, quelque chose ne va pas. Si votre réaction en regardant les infos, c'est « Dieu, dépêche-toi, viens détruire ce monde-là », c'est que votre cœur ne va pas bien. Jésus, en voyant l'état de ce monde, a pleuré. Versets 14 et 15, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Alors, il n'y a pas de doute, Nicodème connaissait l'histoire. Ça vient de Nombre 21, versets 4 à 9. C'est l'histoire de quand les Israélites, ils ont péché, ils se sont rebellés contre Dieu. Et au verset 6 de Nombre 21, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et ils moururent au prix du genre en Israël. de grâce parce que Moïse a prié pour le peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné l'ordre. Il a dit à Moïse de façonner un serpent en airain. Pourquoi en airain?
Parce qu'ils avaient ça sous la main. C'est une occidentale.
Pas forcément. L'airain dans la Bible, ça représente le jugement. Verset 9, Moïse fit un serpent d'airain et il le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Tout comme ce serpent qui avait été élevé sur une perche, et vous vous souvenez le mot grec pour la croix, c'est Stavros, ça veut dire une perche ou un pieu.
Star Wars, ouais.
C'est que je suis ton père. Tout comme ce serpent qui était élevé sur la perche, Jésus était élevé sur la croix. Pourquoi? Pour nous sauver de la morsure du serpent. Le monde entier a été mordu par le serpent du péché. C'est pour ça qu'on lit dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Donc comment est-ce que quelqu'un est né de nouveau ? Comment est-ce que les Israélites devaient s'en sortir s'ils étaient mordus par ce serpent? En regardant la croix. En levant les yeux vers Jésus, élevé sur la croix, et par la foi, croire que nous pouvons être sauvés de la morsure du serpent de péché. Ce serpent d'airain, au temps de Moïse, a porté la vie physique aux Juifs mourants. Et Jésus donne la vie éternelle à quiconque place sa foi en lui. Le serpent symbolise le péché et Jésus est devenu péché pour nous. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et le peuple avait le choix. Au temps de Moïse, dans Nombre 21, les Juifs avaient le choix. Quand ils étaient mordus par le serpent, ils avaient le choix. Ils pouvaient ne pas se fier au serpent qui était élevé, au serpent d'airain. Ils pourraient continuer dans la douleur, le déconfort, inconfort.
Plus qu'un confort, oui.
Et mourir. Ou ils pouvaient regarder le serpent d'airain et vivre. C'est marqué que beaucoup sont morts. Ils avaient la possibilité d'être sauvés. Ils l'ont pas fait, ils sont morts. Et de même, de nos jours, il y en a qui peuvent tourner les yeux vers Jésus sur la croix pour être sauvés de leur péché. Mais ils refusent et ils meurent dans le péché. Mais ils ont le choix. Ils ont le choix. Et ce choix, il est expliqué dans le verset le plus connu de toute la Bible, Jean 3, 16. Mais avant de le lire, on va regarder le verset 14, parce qu'on y trouve le deuxième « il faut que » de ce chapitre. Le premier, c'était au verset 7. Jésus a dit « il faut que vous naissiez de nouveau ». Et au verset 14, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il est nécessaire que Jésus aille sur la croix. Il n'y a pas d'alternative. Si Jésus n'était pas allé à la croix, nous mourrions tous dans le péché.
Moi, c'est la grosse question que je me poserai toute ma vie.
Est-ce que tu le savais dès le départ, enfin, quand son ministère a démarré, quoi, en fait, qu'il allait souffrir à un point comme ça, quoi, en fait. C'est toujours, enfin, une question qu'on peut toujours se poser, quoi.
Oui. Qui demandera quand ça arrivera.
Voilà.
Mais il le dit à un moment donné quand les disciples parlent de on veut siéger à ta droite et à ta gauche, et il leur répond, mais vous n'êtes pas prêts à boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dans lequel je vais être baptisé.
Ouais.
Donc il montre qu'il sait,
ouais,
qu'il y a un moment donné où il va souffrir et que ça va être.
Là, on est au chapitre 3 de Jean, donc on est au début de son ministère.
Mmh.
Et il dit que tout comme le serpent a été élevé, il faut que le Fils de l'homme soit élevé.
C'est dans l'Ancien Testament, ils se partageront les vêtements et tout, il y a plein d'indications dans l'Ancien Testament qui.
Ils savaient.
Ouais.
Oui, voilà, ils savaient.
C'est marqué dedans.
Ils savaient. Oui,
ouais, non, mais je ne suis pas content. Hein,
tous les juifs le savaient.
Et là, au verset 14, il faut que. Il n'y a pas le choix, c'est nécessaire. C'est la définition, il faut que. Ce n'est pas une option.
Oui, ça c'est chaud. Quoi.
Afin que nous puissions être sauvés de la morsure du péché, Jésus devait mourir sur la croix. Et puis on arrive au verset 16. On connaît tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. J'aurais pu prêcher plusieurs jours sur ce verset. C'est un verset qui nous montre le cœur de Dieu. Il a aimé le monde. Mais il y a l'adverbe, il a tant aimé le monde. Ça nous indique vraiment le cœur du Père. Ça nous montre ce qu'il pense de nous.
Ouais. Tu vois, dans la traduction, là, il a tant. Ça veut dire, moi, j'ai tant aimé, ça veut dire peut-être que j'aime-tu. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'ai tant aimé que maintenant, bon, j'aime moyen, quoi. Est-ce qu'il aime toujours autant? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
C'est le passé, bah, il a tant aimé, c'est le passé qu'il pouvait.
Quand il voit tout ce qui se passe, quoi.
Ouais.
Genre, c'est pas joli, joli non plus, quoi.
Alors, est-ce que la traduction est bonne? Je sais pas, mais.
Trouvons un verset qui prouve que Dieu change.
Non, mais
c'est temporel, c'est pour marquer qui.
Non, ah, je ne dis pas qu'il n'aime plus le monde, je n'ai pas dit ça.
Mais c'est vrai que c'est un passé composé. C'est un fait.
Parce que il a donné.
C'est le passé aussi.
Ouais, c'est un événement qui est passé. Donc, il a tant aimé que c'est la raison pour ce qui suit. Ce qui suit, c'est forcément au passé, donc.
Il faut qu'on soit
au passé. Ah oui.
Mais
c'est ça, c'est
moi, je me suis penché quelques instants sur ce mot temps.
Ben oui.
J'ai regardé mon petit Robert. Vous savez ce que j'ai découvert? Je vous lis. Temps est un adverbe de quantité qui marque l'intensité. C'est une quantité qu'on ne précise pas. C'est la quantité dont on parle et plus encore. C'est pas beau ça? Vous voulez savoir à quel point Dieu a aimé le monde? Pensez à une quantité, c'est au-delà. Je me suis dit, un jour je vais prêcher sur le Dieu de l'au-delà. Le plus encore.
Et la traduction de ce temps en grec, c'est quoi?
En anglais, c'est sûr.
Houtos, si mes souvenirs sont bien. Tellement il aimait le monde qu'il a donné son Fils. Non seulement Dieu a aimé le monde, mais il a tant aimé le monde. Et vous voulez que je vous dévoile un autre secret dans ce verset? Il y a 5 noms. Noms et pronoms. En grec en tout cas. Ce si nous voulons avoir une vie épanouie, le Fils Jésus doit être au centre. Dieu nous l'explique de façon claire dans ce verset. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous voulez une autre définition? Quiconque, ça veut dire quiconque.
Ah oui.
Quiconque blanc, quiconque noir, quiconque anglais, quiconque français, quiconque. C'est ouvert à tout le monde. Quiconque croit. Le mot grec pour croit, c'est pistis. Un peu comme la boisson de Marseillais. Là. Et ce mot, ça veut dire faire confiance à. Compter sur, s'adhérer à. Ce que ce mot ne veut pas dire, c'est une reconnaissance académique d'un fait historique. Est-ce que vous croyez en Dieu? Ça ne veut pas dire, est-ce que vous admettez qu'il existe? Reconnaître l'existence, ça ne fait pas de vous un croyant. Reconnaître l'existence de Dieu, tout ce que ça fait, ça vous sépare des insensés. Mais ça ne fait pas de vous un croyant. Je peux le prouver de la Bible. Psaume 14, verset 1, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Si vous n'êtes pas convaincu, psaume 53, verset 2, l'insensé dit
que la nuit va arriver.
En son cœur, il n'y a point de Dieu. Croire en l'existence de Dieu vous sépare des insensés, ça ne fait pas de vous un croyant. Pistis, c'est se reposer de tout son poids sur quelqu'un. Comme un sportif qui se blesse, il sort du terrain en se reposant de tout son poids sur le kiné. Croire en Jésus, c'est faire confiance à Jésus, c'est compter sur Jésus, c'est s'adhérer à Jésus, c'est se reposer de tout son poids sur Jésus. Tout comme les Juifs devaient lever les yeux vers le serpent d'airain pour échapper aux conséquences de la morsure du serpent, nous devons lever les yeux vers Jésus pour échapper aux conséquences de la morsure du serpent. Nous devons nous reposer sur lui de tout notre poids. Avouer, accepter que nous ne pouvons pas nous en sortir tout seul. Nous avons besoin d'un sauveur. Croire en Jésus, c'est repentir de nos péchés et faire de lui notre sauveur et Seigneur. Croire en Jésus, c'est le placer au centre de notre vie. Ma dernière question pour vous ce matin, c'est est-ce que vous l'avez fait? Si vous ne l'avez pas fait, je ne vais pas vous juger, vous pourrez le faire ce matin, il n'y a aucun problème. Mais pour finir, le problème avec la religion, c'est qu'elle nous rend aveugles à ce besoin d'être né de nouveau. Pour Nicodème, il a avoué l'existence historique de Jésus, il a avoué que Jésus est venu de Dieu. Mais la religion l'empêchait de comprendre et d'accepter ce que disait Jésus. Comme on l'a vu au verset 12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Est-ce que, comme Nicodème, vous reconnaissez que Jésus vient de Dieu? Mais vous ne pouvez pas accepter la nouvelle naissance qu'il a. Cette vie éternelle, cette vie passée à ses côtés au ciel, cette Zoé. Ou alors, est-ce que vous pouvez lever les yeux vers Jésus, qui est le seul remède contre le péché? Comme le serpent d'airain était le seul remède contre la morsure du serpent. C'est le seul qui peut nous offrir une vie en abondance. C'est le seul qui est venu du ciel. Donc c'est la seule qui peut nous en parler. Il suffit de te regarder, de compter sur toi.